France Musique. Brut d'accordéon. Félicien Bru. France Musique.
Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour partager une nouvelle escapade. Vous avez envie de soleil, de café serré, de pâtes fraîches et de danser la tarentelle? Alors bienvenue dans ce cinquième numéro de Brut d'accordéon. Bienvenue au pays de Gioacchino, de Giuseppe et d'Antonio. Décollage immédiat pour l'Italie en plein été. Le commandant de bord Gilles Appap au violon, sa copilote Myriam Lafargue à l'accordéon et leur steward Ludovit Kovac au cymbalum et Philippe Noaré à la contrebasse viennent donc de faire atterrir notre avion chez nos voisins transalpins au son du troisième mouvement de l'été, ce fameux concerto en sol mineur d'Antonio Vivaldi. Nous voici donc au cœur de l'Italie, dans la province d'Ancône. Imaginez, nous sommes à quelques centaines de mètres seulement de la côte adriatique et nous voyons apparaître un village, perché sur le flanc d'une petite colline. Des façades ocre, des tuiles orangées, quelques campaniles qui se décrochent dans le ciel azur, nous voici à Castelfidardo, le village mondial de l'accordéon. Castelfidardo, c'est une ville qui compte aujourd'hui environ 20 000 habitants et qui vit depuis bien longtemps au son de l'accordéon. Enfin, je devrais plutôt dire de la fisarmonica, comme disent les Italiens. Il y a donc des accordéons partout, au milieu des ronds-points, au centre des fontaines, dans les vitrines de chaque magasin. Même les poignées de porte et les boîtes aux lettres prennent souvent la forme d'un piano à bretelles. Alors vous me direz quel paradis pour les accordéonistes, et vous aurez bien raison. Chaque fois que je me suis rendu à Castelfidardo, j'ai ressenti la même émotion, celle d'être là où l'histoire de notre instrument a été écrite. Mais pour raconter cette histoire, le lieu ne suffit pas. Il faut à présent régler nos horloges et remonter le temps jusqu'au milieu du 19e siècle, à l'époque où les rues italiennes bruissaient de débats enflammés à propos de la dernière création de Giuseppe Verdi.
Thank you.
Nous écoutions Pierre Cussac dans cet arrangement du prélude de la célèbre Traviata, monument de l'opéra, signé Giuseppe Verdi et créé en 1853 à Venise. C'est justement au printemps 1853 que débute notre histoire. Selon la légende, un pèlerin autrichien est en route pour le sanctuaire de Loreto. Éreinté par son périple, l'homme cherche refuge pour passer la nuit. Il frappe par hasard à la porte d'une petite ferme située à quelques kilomètres du lieu saint, dans le petit village de Castelfidardo. Le couple de paysans, Antonio et Lucia Soprani, l'accueillent chaleureusement, lui offrant le gîte et le couvert. Mais le pèlerin porte avec lui une sorte de petite boîte qui intrigue le jeune fils des Soprani, Paolo, alors âgé de 9 ans. Le visiteur autrichien explique au petit garçon qu'il s'agit d'un accordéon, un instrument de musique inventé à Vienne il y a quelques années par un certain Cyril Demian. L'enfant est tellement captivé par cette invention que le pèlerin décide, au moment de quitter la famille le lendemain, de lui offrir son instrument. C'est à partir de cette rencontre, fortuite, que l'histoire va basculer et que l'accordéon va rejoindre au panthéon des instruments populaires italiens, l'incontournable mandoline. L'accordéon de Grégory Daltin et la mandoline de Vincent Baird de Mandeur dans cette farandole extraite de la suite populaire composée par Vladimir Kosma pour ce duo dont l'enregistrement est paru en 2020. Mais après ce clin d'œil à la mandoline, reprenons le fil de notre histoire. Le petit Paolo Soprani ne va plus quitter l'accordéon que lui a offert le pèlerin viennois. Il apprend à en jouer tant bien que mal, mais il va surtout le démonter à maintes reprises, chercher à lui apporter des modifications, concevoir des améliorations. C'est pour lui une véritable passion. Devenu adolescent, Paolo commence à fabriquer des accordéons dans la ferme familiale avec l'aide de ses frères. Il va vendre ses instruments sur les marchés des villes voisines. Les mois passent, la demande grandit et en 1864, Soprani a seulement 20 ans lorsqu'il décide de fonder la première usine d'accordéon à Castelfidardo. L'entreprise ne va cesser de se développer jusqu'à employer 400 ouvriers. Paolo Soprani va tout simplement révolutionner la fabrication de l'accordéon, industrialiser sa production et profondément repenser l'instrument jusqu'à obtenir des accordéons très proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Thank you. commence Tony Murena, lui-même d'origine italienne, dans cet enregistrement de 1947 de la Miglia Vacca, une célèbre mazurka composée par le violoniste italien virtuose du 19e siècle, Augusto Miglia Vacca. Le succès de Paolo Soprani va évidemment faire des émules. Ils sont nombreux à lui emboîter le pas et dès les années 1880, de nombreuses usines d'accordéon ouvrent leurs portes à Castelfidardo. Je pourrais citer l'exemple de Crucianelli, fondé en 1888, mais aussi de Pierre Maria qui voit le jour en 1900. Depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, l'essentiel de la production mondiale d'accordéon sera basé dans ce petit village italien. Toute l'économie locale est orientée sur cet artisanat et à l'heure où je vous parle, on compte toujours 29 entreprises employant plusieurs milliers d'ouvriers à Castelfidardo. Parmi les nombreuses transformations que Soprani va apporter à l'accordéon, il en est une qui est capitale. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les accordéons sont tous diatoniques. Paolo Soprani va inventer l'accordéon chromatique, mais avant de vous expliquer plus précisément en quoi consiste cette mutation, écoutons l'accordéon diatonique de Marc Perron dans une chanson italienne de Di Capua, Maria Marie. Et voici le moment d'ouvrir notre séquence « Questions pour un accordéon ». Le principe de cette séquence, tenter de répondre à une question technique qu'on me pose souvent à la sortie des concerts. Et la question du jour, quelle est la différence entre un accordéon chromatique et un accordéon diatonique? Alors pour faire simple, sur un accordéon diatonique, lorsque l'on enfonce une touche, on obtient une note en tirant sur le soufflet et une autre note en poussant. Par exemple, un do bécard en tirant et un do dièse en poussant. Le jeu de l'accordéon diatonique est donc particulier dans le fait que le mouvement du soufflet dépend des notes que nous voulons produire. L'invention de l'accordéon chromatique a tout changé, puisque là, en enfonçant une touche, on obtient la même note en tirant ou en poussant. L'instrumentiste choisit donc les mouvements du soufflet non pas en fonction des notes, mais en fonction du phrasé qu'il souhaite obtenir, exactement comme un violoniste avec son archet. Cette découverte va tout changer et permettre entre autres le développement d'un clavier main gauche beaucoup plus complet et complexe.
Brut d'accordéon, Félicien Bru, France Musique.
Il est temps de quitter un peu l'Italie pour venir observer ce qui se passe à l'époque à Paris.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits les girouettes tournent, font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café. On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
La voix d'Yves Olivier, nom de naissance du monument de la chanson, qu'était Yves Montand, lui qui est né en 1921 en Italie, mais qui chantait si bien Paris comme ici en 1953, sur la scène du Théâtre de l'Étoile, accompagné par Freddy Balta à l'accordéon. Si la France était le pays où l'on fabriquait le plus d'accordéons jusque dans les années 1860, les choses vont bien changer ensuite. Très vite, elle est dépassée par l'Italie et l'industrialisation de la production à Castelfidardo. L'accordéon tombe un peu en désuétude dans l'Hexagone et on importe à Paris davantage d'opéras italiens que d'accordéons en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Un des maîtres du genre choisira d'ailleurs la Ville Lumière comme lieu de résidence à partir de 1848. Il passe ici les 20 dernières années de sa vie. Il s'appelle Gioacchino Rossini.
Thank you.
Le génial Roman Jbanov dans cet arrangement de l'air de Figaro, extrait du Barbier de Séville de Rossini. Si le célèbre Gioacchino choisit de venir vivre à Paris, il n'est que le précurseur d'une immigration italienne très importante qui va déferler sur la capitale française à partir des années 1900. C'est à ce moment-là que les Parisiens vont redécouvrir l'accordéon, l'accordéon transformé par les Italiens et adoptant un nouveau visage. Son succès sera immense et il deviendra rapidement le roi des balmusettes. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, tout cela fera l'objet d'une prochaine émission. Je voudrais conclure ce numéro avec la plus célèbre des danses italiennes, la tarentelle. Alors place au piano de Lina Bossati et à l'accordéon de ce fils d'immigré italien, le grand Marcel Azzola. Tarentelle accordéon, une composition de Joé Rossi et Marcel Azzola que nous entendions ici en duo avec la merveilleuse pianiste Lina Bossati, évidemment. Brut d'accordéon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là pour cette escapade italienne. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro consacré à nos histoires de famille avec notre cousin le bandoneon. Un grand merci à Éric Villenfin, à la technique, au talentueux Lionel Quentin qui réalise cette émission et à Nelly Portal qui m'aide à la préparer. Cet épisode est à retrouver dès à présent en podcast sur le site France Musique ou l'application Radio France. Il est bientôt 16h et donc presque l'heure de retrouver Jérémy Rousseau et ses invités du jour pour son émission « Que dis-je, l'institution radiophonique qu'est la tribune des critiques de disques ». Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne semaine et comme disait Michel, vivement dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.